à la police britannique le surnomme le marionnettiste, référence à ses qualités hors du commun pour manipuler les autres. Depuis jeudi, Robert Andy Frigart est en cavale, une cavale qui a commencé dans la Creuse. Mais où est-il désormais? Après un refus d'obtempérer jeudi, il a pris la fuite, blessant sérieusement deux gendarmes. Une cavale qui pose de nombreuses questions, car celui qui avait trouvé refuge dans la Creuse depuis 2015 est en réalité une légende de l'escroquerie au Royaume-Uni. Son parcours, son profil, on va tout vous dire dans un instant. Mais d'abord, son portrait, signé Florian Porras.
C'est dans cette maison de la Creuse en apparence tranquille que Robert Andy Frigart vivait reclus avec sa femme depuis 7 ans.
J'ai une maison qui est à moitié en ruine, alors que lui, ça me suit plutôt bien et tout, bien sûr lui et tout, on ne comprend pas ce qu'il faisait là-dedans, quoi.
Bien sûr lui, manipulateur, charmeur, c'est grâce à ses qualités que cet homme va devenir un maître de l'escroquerie au Royaume-Uni. Sa notoriété lui vaut même un documentaire sorti sur Netflix en janvier. Une série qui retrace son histoire, celle d'un homme qui, dans les années 90, se fait passer pour un membre des services de renseignement britanniques. Il voit des personnes, principalement des femmes. Et celui que la police anglaise surnomme le marionnettiste leur fait alors croire qu'elles sont menacées par des terroristes et qu'il faut qu'elles se coupent de leur famille. C'est ainsi qu'il parvient à prendre le contrôle de leur vie et à leur escroquer plusieurs centaines de milliers de livres sterling.
En 2002, il a été condamné à la prison à vie. Alors après, ses avocats ont fait des recours, notamment sur le côté kidnapping, en disant que ses victimes étaient libres d'aller et venir et que finalement, le terme de kidnapping ne tenait pas. Donc il a été libéré en 2009.
Après 4 années de prison, il s'installe en France et fait une autre victime, sa femme, Sandra Clifton. Une Britannique qu'il aurait isolée progressivement de sa famille et dont les enfants pensaient qu'elle avait disparu.
Un parcours qui pose évidemment beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre avec nos différents invités. Le général François Daouze, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien directeur de l'IRCGN, du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Paris. Pascal Neveu, bonjour, bienvenue. Vous êtes psychanalyste, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active. Et Martine Laporte est également avec nous. Bonjour madame, vous êtes la maire de Vidaya dans la Creuse. On va venir vers vous évidemment dans un instant parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Un mot d'abord de cette en cours général. Cet homme a fui jeudi avec sa voiture, une Audi identifiée, immatriculée, et on n'a toujours pas retrouvé. Qu'est-ce qui se passe là depuis jeudi?
Alors, il y a d'abord un très gros dispositif qui est sur plusieurs départements, à la fois avec les unités territoriales, que sont les brigades de gendarmerie départementales, mais également les hélicoptères, des drones et aussi des unités mobiles. C'est un dispositif qui est beaucoup plus large qu'initialement prévu. Pourquoi ? Parce que là-dessus, Pascal Neveu en parlera beaucoup mieux que moi, le profil de l'individu est quand même un profil bien particulier. On peut se dire qu'il est parti dans la précipitation. La preuve est renversée de gendarmes, c'est pas rien, parce que derrière, ça a une connotation criminelle, et il est peut-être dans l'affolement. Sauf qu'on voit que c'est quelqu'un d'organisé, et que certainement, il a peut-être prévu des échappatoires, et ces échappatoires, c'est un changement de véhicule, c'est un autre lieu, c'est une planque, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et là rentrent en jeu les enquêteurs pour remonter ce fil et arriver à localiser où il peut être.
Madame Laporte, madame la maire de Vidaya, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet homme a quitté la Creuse ou qu'il est terré quelque part caché en Creuse?
Alors écoutez, franchement, je ne sais pas, mais je dirais que je pense qu'il est plutôt resté pas très loin et qu'il a effectivement des planques, mais maintenant, je ne peux pas l'affirmer.
Est-ce que cela vous inquiète ?
Oui, c'est inquiétant et ça inquiète aussi les habitants parce que, effectivement, avant de partir, il a quand même proféré des menaces et donc tout le monde est inquiet. C'est sûr que nous serions beaucoup plus sereins s'il pouvait être arrêté.
Madame le maire, comment vivait-il dans ce village? Est-ce qu'il fréquentait des gens? Est-ce que vous lui aviez parlé déjà? Est-ce qu'il s'était présenté à vous en arrivant? Depuis combien de temps il était là?
Alors, c'est des personnes donc, qui étaient là depuis 2015. Je l'ai reçu à la mairie au tout début, 2015-2016, simplement pour lui expliquer quelles étaient la loi en vigueur en France pour un élevage de chiens, puisqu'il disait qu'il voulait élever des chiens. Donc voilà, et ensuite c'est quelqu'un quand même qu'on a très peu vu, hein, qui était très très peu présent. Et puis finalement, moi je l'ai juste croisé de temps en temps, mais je n'ai jamais rediscuté avec lui ou quoi que ce soit.
Est-ce que vous étiez au courant de son passé ? Est-ce qu'il y avait une vigilance particulière autour de lui ?
Alors, nous, on était vigilants déjà depuis un certain temps, parce que effectivement, quelqu'un avait fini par découvrir sur Internet son passé en Angleterre. Donc, à partir de 2019-2020, moi, j'ai alerté le procureur de la Creuse deux fois. Je lui ai écrit, j'ai alerté les forces de gendarmerie bien en amont et plusieurs fois et... Et voilà, j'ai rencontré des associations de femmes en détresse, puisque quand même Madame Clifton vivait dans des conditions quand même très très particulières qui nous inquiétaient beaucoup. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Je pense qu'on nous a pas toujours pris au sérieux, et je trouve ça dommage pour qu'on en arrive jusque là, quoi.
Vous restez avec nous, Madame la maire. Je me tourne vers Pascal Neveu. Madame la maire fait référence au passé de cet homme. Et c'est vrai que son parcours est incroyable. On le rappelait dans le sujet, une série Netflix lui a été consacrée. Oui. On l'appelle le marionnettiste. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? C'est un roi de la manipulation ? Il y a des gens qui savent comme ça, comme un serpent, manipuler totalement quelqu'un ?
Un peu comme un hypnotiseur de foire, si je puis dire. Mais alors lui, il a une particularité, c'est qu'il opère à peu près toujours de la même façon. Et il utilise une technique qui est très intéressante, c'est à la fois je dis de la vérité et je fais fantasmer sur certains mensonges également. Alors il ment, il dit la vérité, et puis il s'invente un personnage d'agent secret, ouais, totalement farfelu. Il est à la fois barman, il est également vendeur de voitures, et puis à chaque fois...
Pour alimenter ce que vous dites, c'est incroyable. Sa première victime, il va quand même la voir en lui disant « Je suis un agent du MI5, des services de renseignement anglais,
connu,
vous êtes en danger, les Irlandais vous en veulent ».
Il faut fuir, vous rapprochez de moi parce que je vais vous protéger. Il va vous falloir de l'argent, donc on vide les caisses et puis on va se promener un tout petit peu partout. Mais alors il manipule des femmes, il manipule un homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un trio avec Atkinson et puis j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, Sarah Smith. Et ils font des choses assez surprenantes. Ils demandent même à Atkinson de dire à Smith qu'il a un cancer et qu'il va mourir et qu'il faut faire une sorte de tournée d'adieu. Dans toute l'Angleterre. Mais à chaque fois qu'il va repérer des personnes qui sont des personnalités à la fois lambda, pardon pour ce terme-là, mais également des chefs d'entreprise, notamment une femme chef d'entreprise qui tenait une concession automobile également, il va procéder de la même façon, il va lui expliquer qu'il a besoin d'argent parce que il rentre dans un programme de protection de personnalités qui savent qui sont les terroristes pour des procès, etc. Ça se fait aux États-Unis, on entend suffisamment
parler. On joue sur quoi quand on manipule les gens, quand on se fait qualifier de marionnettiste, on joue sur quoi les sentiments qu'on installe avec les gens, la peur.
L'affect. Il a eu deux enfants d'ailleurs, il a épousé une de ses victimes, hein, si je puis dire. Il en a divorcé par la suite. Il a demandé d'ailleurs à une autre femme victime de lui donner de l'argent, de lui prêter de l'argent parce qu'il n'en avait pas assez pour le procès concernant son divorce. Donc d'abord, c'est l'affect, c'est la fragilité qu'ils peuvent repérer immédiatement, se faire passer également pour des personnalités un peu fragiles. Sauf que c'est à la fois il est victime de ses propres mensonges, mais ce sont les autres qui sont victimes bien de ses actes. Il faut quand même, Madame le maire l'a pas suffisamment répété, mais sa compagne actuelle, elle vivait, c'est ça qui est intéressant dans sa façon de procéder. Donc il y a l'argent, il y a la séduction, il y a l'emprise, il y a l'humiliation. À chaque fois, il va, par exemple, sa dernière victime, qui est retournée, ou en tout cas qui est proche de l'ambassade d'Angleterre maintenant, sa famille l'a retrouvée, il lui demandait, enfin, elle vivait en mangeant des châtaignes, elle récupérait les crottes des chiens, etc. Il y avait 50 canins, je crois, dans cet élevage. Son ancienne compagne, et même Atkinson, il leur demandait des tests de loyauté, des tests de franchise. Et il se faisait battre également, il était violent avec une de ses compagnes, il a demandé à une de ses compagnes également de dormir sur un banc dans la rue. en plein hiver.
Mais pas si malin que ça au final, parce que il a réussi. Bon, il est parti d'Angleterre, il n'est pas en cavale, il n'est pas en fuite. Hein, il vient simplement vivre un peu en paix dans un village de France. Il va élever des chiens. Et il se fait bêtement attraper parce que il a plein de chiens, il s'en occupe visiblement pas très bien, ça alerte tout le monde dans le village, les chiens aboient, hein, on a entendu sur BFM TV nos envoyés spéciaux, ils sont allés dans le village, les chiens aboient, et tout ça. Alors maintenant, question à vous, général, comment se fait-il que les gendarmes, vous avez entendu ce qu'a dit Madame le maire, hein, elle a dit, moi j'aurais bien aimé quand même que ça intervienne avant. Il y a un voisin qui avait témoigné sur BFM qui a dit, bah oui, ils n'avaient pas de commissaire rogatoire. Bon, je pense pas que ce soit ça. Pas de commissaire rogatoire, le procureur peut dire, moi je demande aux gendarmes de venir, je veux savoir ce qui se passe dans cette maison. Comment se fait-il? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, et dans plein de villages de France, il y a des personnages comme lui qui inquiètent, qui intriguent, dont on aimerait que les gendarmes aillent leur poser des questions. Comment se fait-il que les gendarmes restent au portail?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est à partir du moment où le procureur de la République est averti, c'est lui qui est le directeur de l'enquête, quelle qu'elle soit. Donc c'est lui qui va donner les ordres, en disant je veux qu'il y ait une intervention, je veux qu'il y ait une enquête préliminaire qui soit ouverte, etc.
S'il Donc a il peut construire un cadre judiciaire pour que les gendarmes
Exactement.
Font enquête préliminaire.
C'est lui qui a l'opportunité des poursuites et de l'ouverture de toute enquête. S'il a décidé que dans un premier temps, après s'être renseigné, qu'effectivement il avait purgé sa peine en Angleterre et qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin en France... Là, ça appartient au procureur. Parallèlement, les signalements ont fait qu'il y a une intervention inter-service. C'est-à-dire que là-dessus, cet élevage de chiens posait problème et a été demandé à ce que les gendarmes viennent en support des services vétérinaires, des services départementaux et d'une association de protection des animaux pour vérifier tout ça. Et c'est cette arrivée à ce moment-là, qui a été le déclencheur pour lui d'une fuite. Alors, est-ce que ça laisse supposer quelque chose?
C'est ce que j'allais dire, qui suscite aussi beaucoup de questions.
Exactement.
Avant de poursuivre sur ce point-là, Madame le maire, quand vous nous écoutez, vous aviez envie de réagir effectivement sur ce sentiment de surprise, sur pourquoi on n'est pas intervenu plus tôt.
Oui, parce que quand j'entends parler du procureur, effectivement, mais moi, le dernier courrier que j'ai fait motivé avec... plein de lettres de personnes qui habitent la commune et qui relataient des faits qui étaient quand même assez graves. Et moi-même, je disais que c'était pas possible qu'on reste dans cette situation pour madame, date quand même de février 2020. Et on n'a toujours pas... moi, j'ai jamais eu aucune réponse à ces courriers. J'ai jamais eu une quelconque parole me disant « Vous inquiétez pas, Madame le maire, on s'en occupe. » Je trouve que c'est dommage.
Ah ouais. Situation assez incroyable, effectivement, quand on vous écoute. Vous êtes la seule, parmi nous tous, à l'avoir eu en face de vous, les yeux dans les yeux. Quand vous écoutez ce qu'on essaye tous de décrypter de sa personnalité avec Pascal à l'instant... Qu'est-ce que vous avez ressenti humainement quand vous l'avez eu en face de vous?
Ah mais écoutez, moi je l'ai reçu en 2015-2016, après je ne l'ai pas vu ou aperçu parce qu'il passait en voiture, mais en 2015-2016 c'était quelqu'un de très agréable, avec qui j'avais du mal à discuter vu mon niveau d'anglais, mais on avait un interprète et franchement c'était quelqu'un de très affable.
Et il vivait de quoi? Est-ce qu'il avait les moyens ou est-ce que c'était quelqu'un qui vivait un peu dans le dénuement?
Alors lui, je ne pense pas. Une voiture, toujours bien mise sur sa personne. Elle, complètement dans le dénuement, effectivement. Elle vivait avec, maintenant on le sait, 29 chiens dans sa maison et dans des cages. On ne savait pas de quoi elle se nourrissait. Voilà. Et on ne pouvait avoir aucun contact avec elle, quoi. Dès qu'on s'approchait d'elle... elle avait un téléphone qui avait qu'une ligne directe, je pense, avec monsieur. En tout cas, elle pouvait appeler que monsieur. Et dès qu'on s'approchait d'elle, elle nous tendait le téléphone et on avait monsieur en direct.
Madame le maire, le général Daoust, à l'instant, a évoqué cette question de pourquoi a-t-il fui? Est-ce que vous craignez qu'il ait pu, dans votre département, dans votre région, remettre en place un système, par exemple, d'escroquerie qu'on n'aurait pas encore mis à jour?
Alors, c'est vraiment que des suppositions, mais à chaque fois que nous avons essayé de nous approcher de madame, il n'était pas là, et dans l'heure ou l'heure et demie au plus tard, il était arrivé. Donc, il n'était quand même pas si loin, Donc moi, je pense qu'effectivement, il a... Alors, qu'il ait reproduit la situation ailleurs, je ne peux pas le dire et je ne vais pas m'engager sur cette voie-là. Mais en tout cas, je pense qu'il a des points d'attache pas très loin.
Et son épouse est toujours là quand vous dites madame? Madame est toujours là?
Alors, madame est repartie. Oui, madame est mise en sécurité, apparemment. Je ne sais pas exactement où et je n'ai pas besoin de le savoir. Mais en tout cas, elle n'est plus sur la commune.
Général, quelle est l'hypothèse privilégiée? Qu'il ait pu remettre en place un système d'escroquerie? C'est pour ça qu'il aurait fui?
Alors, qu'il ait quelque chose à se reprocher, certainement, parce que ce n'est pas les délits qui sont liés aux animaux qui sont les plus importants et qui vont immédiatement, parce que c'était un élevage mal tenu, non réglementaire.
Ça ne justifie pas
une telle réaction ou surréaction. Donc, les enquêteurs doivent travailler sur une hypothèse, il y a autre chose. Et là, comme disait Madame le maire tout à l'heure, le fait que dans l'heure et demie, ils reviennent systématiquement, ça veut dire qu'il n'est pas souvent là. Donc, il a une autre base ailleurs. Et c'est à partir de ces 7 bases qu'il faut retrouver pour, eh bien, c'est la pelote de fil, eh bien, retrouver petit à petit qu'est-ce qu'il a pu faire, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a mis en place, est-ce que c'était de nouvelles escroqueries ou autre chose.
Et quelqu'un qui, dans sa cavale et qui, par le passé, s'est tellement bien manipulé qu'il n'est pas facile à retrouver.
Non, c'est une personnalité assez particulière. Il y a peut-être deux hypothèses également, c'est qu'il ait une double vie, et, comme le dit le général Daoust, et puis également, peut-être le rappel est d'où son passage à l'acte assez agressif, et c'est là où il faut pas minimiser la violence et le côté dangereux du personnage, c'est que ça lui rappelle son arrestation par le FBI et Scotland Yard. Et qui se disent, attention, même si j'ai échappé à la justice à un moment donné, ce qui a pu lui donner le fantasme d'une forme de toute puissance, à un moment donné, vient de se dire, attention, il faut que j'échappe à nouveau de façon aux forces de l'ordre. Mais je reviens à son profil psychologique. Il est quand même multiface. Il est très particulier. Moi, j'arrive pas du tout à cerner le personnage. Je sais pas où le caser, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est son enfance. Pour qu'il en arrive à emprisonner sa compagne qui vit de manière recluse dans cette maison, vivant comme une souillon, hein, pardonnez-moi le terme, mais on a l'impression qu'il reproduit quelque chose. Il est hyper narcissique finalement, parce qu'il a une belle voiture, il vit bien, et puis il a à côté de lui une femme qui vit dans la misère. Qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance? Est-ce qu'il a été violenté? Est-ce qu'il a été harcelé? Est-ce qu'il a été abusé? Est-ce que on l'a, frappé dans son enfance? La mère, le père, j'en sais rien. J'ai cherché des éléments, je les ai pas trouvés pour le moment. Je serais très intrigué et très intéressé de savoir ce qu'il est capable de reproduire et pour se venger peut-être de quelque chose.
Général, d'un mot, est-ce qu'il peut échapper aux forces de l'ordre au regard de son pédigré, de ses talents de manipulateur?
Alors, le talent de manipulateur, c'est une chose. Là, maintenant, le portrait est diffusé, il est recherché, tout le monde a une certaine attention. Bien sûr, il peut se grimer, il peut se couper les cheveux, il peut une moustache, ça peut, qui rendra un petit peu difficile les choses. Mais les forces de l'ordre, que ce soit gendarmerie sur tout l'ensemble du territoire ou la police nationale, quand même là derrière, et il y a un client qui est intéressant à plus d'un titre, criminellement.
Merci beaucoup à vous deux. Merci Madame la Maire d'avoir été avec nous en direct dans Affaire Suivante pour toutes ces informations que vous nous avez délivrées. On va continuer évidemment à suivre cette traque et cette cavale de près. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec un témoignage exceptionnel sur le plateau d'Affaire Suivante, celui de Félicité Lambeau. Le 20 juillet dernier, son fils Mathieu tuait 5 membres de sa propre famille, dont son père et sa propre sœur. Félicité Lambeau a suivi cette tuerie à distance. Son fils lui a même envoyé des messages au moment des faits. C'est elle qui a alerté les forces de l'ordre pour la première fois. Elle va nous raconter ce drame, sa vie aujourd'hui, son attente surtout d'avoir des réponses. À tout de suite. 13h23, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Dans un instant, un témoignage exceptionnel. La mère de Mathieu sera notre invité. Mathieu, c'est ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui a tué, mi-juillet, 5 membres de sa famille à Douvres, dans l'Ain, une tuerie qu'il a fait vivre à sa mère en lui envoyant, au moment des faits, des messages par téléphone. Sa mère voudrait aujourd'hui essayer de comprendre. Elle sera notre invité avec son avocat sur ce plateau. Dans un instant, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Que faisiez-vous dans la nuit du 30 au 31 août 1997? Si vous ne dormiez pas, minuit 26, vous vous souvenez probablement de ces alertes qui ont surgi à la radio, à la télévision. La voiture qui conduisait la princesse de Galles, Lady Di, s'est encastrée à plus de 100 km/h dans le 13e pilier du tunnel du pont de l'Alma.
Le conte de fées a tourné au drame cette nuit à Paris. À 36 ans, Lady Di a trouvé la mort dans un accident de voiture en compagnie de son nouvel ami, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed.
En se réveillant le 31 août 1997, le monde entier découvre abasourdi les images de cette Mercedes noire totalement disloquée. Extraite de l'épave encore vivante, la princesse Diana mourra à l'hôpital quelques heures après l'accident.
She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness.
Au Royaume-Uni, toute une nation pleure sa princesse, ex-épouse du prince Charles. Plus d'un million de bouquets de fleurs sont déposés à son domicile. Ses funérailles, diffusées dans le monde entier, rassemblent 3 millions de personnes dans les rues de Londres. Passé le temps du deuil, vient celui de l'enquête. Comment cette Mercedes noire a-t-elle pu finir sa course dans l'un des piliers de ce tunnel ? L'enquête française imputera l'accident au chauffeur qui conduisait alcoolisé. Une seconde enquête, britannique cette fois, donnera également pour responsable la dizaine de paparazzi qui avaient pris en chasse la voiture. Certains, notamment le père de Dodi Al-Fayed, continuent de croire aujourd'hui à un complot.
Et on est ravis de retrouver sur le plateau d'Affaires Suivantes Jean-Alphonse Richard. Bonjour, bienvenue, journaliste à RTL, présentateur de l'heure du crime. Vous l'avez couvert, cette affaire. Est-ce que vous, vous vous souvenez de ce que vous faisiez exactement dans cette nuit du 30 au 31 août?
Ah ben moi, j'ai appris cette affaire tôt le matin, en étant réveillé. À l'époque, je travaillais au Figaro, en étant réveillé par mon journal. Donc voilà, donc très tôt. Et puis ensuite, toute la journée, on a enquêté. Et effectivement, j'ai rencontré très vite, dans la matinée, le préfet Philippe Massoni, qui était le préfet de police à l'époque. Et qui m'a dit c'est pas une affaire normale, c'est une affaire exceptionnelle, enquête exceptionnelle. Et effectivement, les moyens qui vont être mis en œuvre tout de suite, très rapidement, vont être gigantesques. On n'a jamais vu ça.
Exceptionnel aussi parce que très vite, les plus folles rumeurs, les plus folles théories du complot, est-ce que ça a été diligenté par la monarchie, est-ce que ça a été diligenté par l'étranger, tout est exploité, tout est dit.
Oui, c'est alors évidemment la théorie du complot et le fait que ça ne serait pas un accident, comme le pensent tout de suite les policiers. Il faut savoir que c'est la brigade criminelle qui va prendre tout de suite le dossier. Alors, la brigade criminelle, en général, elle n'est pas chargée des accidents de la circulation. Mais là, l'enquête est tellement exceptionnelle que 24 policiers de la criminelle vont travailler sur le dossier. Ça veut dire que c'est un quart des effectifs de la criminelle. Pourquoi théorie du complot ? Ben, tout simplement parce que la famille Al-Fayed ne croit pas du tout à un accident. Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, tout de suite, il dit « bah non ». Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'accident possible dans un tunnel à Paris, à 150 km/h sous un tunnel. C'est pas possible. On a tué mon fils et on l'a tué parce qu'il voulait se marier. Il allait se marier avec Lady Diana et la monarchie ne supportait pas cette union. Voilà, ça va être le scénario basique.
On parle quand même, Jean-Alphonse, d'un type alcoolisé, le conducteur. Oui. Qui avait clairement bu, puisque ça a été constaté.
1,75 g, 1,85 g, c'est ce que dit l'autopsie.
C'est quand même énorme. Qui roule très très vite, qui est poursuivi par une horde de journalistes à moto, avec des caméras, et qui peut simplement avoir perdu le contrôle de sa voiture.
Bien sûr, et effectivement, banal. Toutes les constatations qui vont être faites vont montrer qu'effectivement la vitesse était excessive. C'était la première fois qu'il prenait cette Mercedes, Henri Paul. Il ne sait pas conduire ce genre de véhicule extrêmement puissant. Donc effectivement, il y a eu un moment donné où il a dérapé et il s'est encastré contre ce pilier numéro 13. Les policiers, moi je me souviens, qu'est-ce qu'ils disent à l'époque ? Ils disent un attentat. Alors évidemment, pourquoi pas organiser tout ça ? D'abord, c'est très compliqué. Et il y a un détail qui finalement est accablant, c'est qu'ils disent si la princesse Diana et si Dodi Al-Fayed avaient eu leur ceinture de sécurité, il serait sorti sain et sauf de cet accident. Vous voyez, donc un attentat, c'est très aléatoire. Il suffisait que les passagers à l'arrière mettent leur ceinture de sécurité, comme avait d'ailleurs Trevor Rhys-Jones à l'avant sa ceinture de sécurité, pour qu'ils aient la vie sauve.
Donc, est-ce qu'il reste...
On est loin de cette...
Est-ce qu'il reste aujourd'hui des zones grises, des zones sur lesquelles on n'a pas toutes les réponses.
Ah ben il y a des zones grises, évidemment. Il y a la fameuse Fiat Uno, hein, cette voiture qui est accrochée par la Mercedes, blanche. Il va y avoir des recherches hallucinantes, 3000 personnes entendues. Enfin, ça va être une recherche absolue. On n'a pas retrouvé formellement ce véhicule. Il y a eu des doutes sur tel ou tel propriétaire, mais on n'a pas retrouvé. Donc c'est quelqu'un qui a pris la fuite, peut-être parce qu'il avait tout simplement pas d'assurance, peut-être parce qu'il n'avait pas de permis de conduire, etc. Mais le fait est, c'est qu'il y a cette zone grise qui existe. Voilà, donc ça c'est une des questions qui reste en suspens et qui alimente toujours, d'ailleurs, Mohamed Al-Fayed, qui vit en Suisse aujourd'hui, qui est un petit peu retiré des affaires, mais qui continue à croire dur comme fer qu'effectivement son fils a été, c'est lui qui était visé, et c'est lui qui devait être mort dans cet accident.
Il est certain que tout au long des prochains jours, on va continuer à décortiquer cette affaire, à en parler. Merci beaucoup, Jean-Alphonse Richard, d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes nous en parler. On vous souhaite une bonne saison
avec
sur RTL avec l'heure du crime. Et à très bientôt sur ce plateau, je n'en doute pas. Tout de suite, les invités de la semaine. C'est un drame absolu qui s'est déroulé les 19 et 20 juillet dernier à Douvres dans l'Ain. 5 membres d'une même famille ont été tués à l'arme blanche et au sabre. Le tueur, Mathieu, faisait partie de cette même famille. Il a choisi d'éliminer son père, sa belle-mère, sa sœur et ses deux demi-frères et sœurs. Un drame qu'il a fait vivre à distance, par téléphone, à sa mère, aujourd'hui évidemment dévastée. Félicité Lambeau a choisi de parler. Elle est notre invitée avec son avocat. Elle sera sur ce plateau dans un instant. Elle attend évidemment aujourd'hui des réponses. Elle espère un jour comprendre ce qui a pu se passer, ce qui n'est pas gagné au regard de cette affaire tout à fait hors norme. Avant de l'entendre, retour sur ces deux journées d'horreur avec Florian Porras.
Derrière ces murs de briques blanches et ces fenêtres de bois, l'indicible. Mercredi 20 juillet, au petit matin, après une nuit de négociations infructueuses, les gendarmes abattent un jeune homme d'une vingtaine d'années. Dans la maison, ils découvrent ensuite 5 cadavres, dont ceux de 3 enfants âgés de 17, 15 et 5 ans. Mathieu a tué froidement à l'arme blanche son père, sa belle-mère, sa sœur, sa demi-sœur et son demi-frère.
C'est difficile de donner des explications rationnelles sur les motivations du mis en cause, sur les raisons qu'il avait de commettre de tels gestes. Il ne semble pas qu'il régnait une animosité terrible au sein de la famille. En tout cas, ça n'a pas émergé de manière massive.
Comment cette famille, a priori sans histoire, a-t-elle pu basculer dans l'horreur ? Le procureur a évoqué des antécédents psychiatriques chez le suspect, mais dans le paisible village de Douvres, personne n'avait un instant imaginé qu'une telle tragédie puisse se produire.
C'était des gens très discrets, un monsieur très discret, et je suis très choquée par ce massacre.
Pour Douvres, c'est un drame. Pour tous les villageois de Douvres, c'est quelque chose d'épouvantable. C'était inimaginable.
Plusieurs zones d'ombre continuent de planer autour de cette affaire. Pourquoi le jeune homme a-t-il tué sa famille ? Y a-t-il eu des failles dans son suivi ? Souffrait-il d'un mal-être ? Autant de questions qui restent sans réponse et qui alimentent le mystère autour du quintuple meurtre de Douvres.
Et invité d'Affaires Suivantes, Félicité Lambeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là, même si on s'imagine ô combien c'est difficile pour vous. Et vous allez nous expliquer aussi pourquoi justement vous avez eu envie de parler aujourd'hui. À vos côtés, Maître Christophe Côté-Bretonnier, bonjour. Merci
bonjour.
D'être là également. Vous êtes l'avocat de Madame Lambeau, vous suivez ce dossier. Vous allez vous parler aussi des aspects juridiques importants dans ce dossier. On va reprendre évidemment le déroulé des faits, mais avant, on a une première question très simple avec Dominique, très humaine, c'est comment ça va aujourd'hui ? Comment vous arrivez à tenir encore debout ?
Grâce à mes 3 autres enfants qui me restent. C'est ça qui me tient.
Vous arrivez à dormir ?
Pas beaucoup. Mais il faut que je dorme, je sais.
Vous parlez de tout ça avec vos autres enfants ?
C'est mes petits qui en parlent. Parce que des fois, il y a des copains et puis ils leur disent que leur sœur est morte.
Quel âge ont-ils, vos autres enfants ?
Jade, elle a 4 ans. Jade a 7 ans. Et Raphaël, il a 4 ans.
Et le troisième ?
18 ans et demi. Ouais.
On va reprendre le déroulé de toute cette affaire. Mais maître, on ne vous présente plus votre carrière. Vous avez défendu Tony Musulin, Michel Noir, de très très grandes affaires. Cette affaire-là a-t-elle un caractère particulier pour vous ? Est-ce qu'elle a suscité une sidération particulière ?
Complètement. C'est un drame familial épouvantable. c'est quand même l'horreur absolue. Hein. Vous avez quelqu'un qui va assassiner quasiment toutes les personnes dont il est les plus proches, sans motif apparent, sans mobile, à l'arme blanche. Oui, c'est épouvantable. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Épouvantable. Et moi, je suis très admiratif de ma cliente, tiens à le saluer, de Madame Lambeau, qui a accepté cette invitation chez vous et qui, comme vous l'avez dit dans vos questions liminaires, fait face. Est-ce qu'il la tient ? Nous, on l'aide. Hein, l'avocat a un rôle particulier dans ce dossier, je m'en expliquerai. Mais surtout, celle qui a un rôle très important, c'est Johanna Rosenblum, sa psychologue. Et nous deux, on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse se reconstruire avec cet objectif, tenir pour l'avenir de mes trois autres enfants.
Félicité, Philippe, vous l'avez dit, on vous remercie. Votre avocat l'a dit, je vous le dis moi aussi. Merci pour votre courage, merci pour le courage que vous avez d'être ici. On voudrait avec Philippe que vous nous racontiez ce qu'il s'est passé, chronologiquement, que vous nous situiez les personnages, dont votre fille Margot, 17 ans, votre fils Mathieu, 22 ans.
Margot,
votre
elle a 15 ans.
Pardon ?
Margot, elle a 15 ans.
Margot, 15 ans, pardon. Votre ex-mari, comment tout cela se passe et se met en place ? Racontez-nous chronologiquement, s'il vous plaît.
Donc, en fait, j'ai pas eu de nouvelles lundi de ma fille.
Elle était partie chez son père,
ouais,
qui vit avec une autre femme.
Voilà, partie chez son père pour les vacances. Et moi, jusqu'à le jour du drame, j'ai toujours ma fille au téléphone. Tout le temps, tout le temps. Que ce soit vocalement ou par SMS. Voilà. Et en fait, vu que je n'avais pas de nouvelles, j'ai envoyé un message à mon fils. Avant ça, j'ai appelé le papa, envoyé des messages au papa. Pas de réponse. Pour moi, ils étaient à Martigues, au camping, ça passe pas. Et mon fils m'a envoyé un message. Mathieu, bonsoir, je les ai tués.
C'est un SMS qui vous envoie ?
SMS, oui.
Bonsoir, je les ai tués.
Voilà.
Qu'est-ce que vous faites ?
Donc, j'ai envoyé un message que comme quoi, c'était pas rigolo, que c'est pas bien de parler comme ça. J'ai essayé de l'appeler, il me répondait pas. J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Puis il m'a dit, qu'est-ce que t'as pas compris ? Je les ai tués, bonne nuit. Donc, du coup, il m'a raccroché au nez, j'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie m'a dit que ça faisait 10 minutes qu'ils avaient eu mon fils au téléphone et qu'ils étaient au courant. Et en fait, je voulais parler avec un gendarme parce que pour moi, c'était pas vrai en fait. C'était pas possible. Je voulais qu'ils aillent dans la maison pour mettre Mathieu à l'hôpital. Je pensais qu'il avait un petit peu souci, que ben, les enfants ils soient à Douvres, avec le papa, la belle-mère, et voilà, donc que Mathieu il avait un souci. Et du coup, j'ai eu du mal à avoir quelqu'un. Ben, j'ai jamais eu quelqu'un, en fait, au téléphone. C'est vers un peu avant minuit que j'ai eu un gendarme au téléphone, parce qu'entre-temps, j'ai mon fils Pierre-François qui a vu la vidéo de tout le monde mort.
Que Mathieu lui a envoyé ?
Non, en fait, Mathieu, il a fait un snap en direct. Et puis, il y a une copine à mon fils qui a filmé en même temps ce que filmait Mathieu. Donc, moi, entre-temps, Mathieu m'a envoyé la photo. Parce qu'il a insisté pour me dire qu'il avait tué. Donc,
quoi la photo, madame ?
La photo de ma fille, morte, égorgée. Il m'a envoyé ça.
Comment, ce que vous dites, tellement terrible pour vous ? Comment vous réagissez quand vous recevez cette photo envoyée par Mathieu, votre fils, de votre fille égorgée qu'il a tuée lui-même ?
J'ai hurlé. Parce que je voyais bien qu'elle était, que c'était elle, que le sang il avait coagulé et tout, et c'était ma fille. Et là, il y a Pierre-François qui m'a envoyé la vidéo aussi de tout le monde. Mais j'ai vu Nathalie, j'ai vu Jeanne. Nathalie, c'est la maman. Et puis, j'ai vu ma fille. Il a même soulevé la couverture.
C'est évidemment absolument horrible ce qui vous est arrivé. J'imagine le nombre de questions qui se brassent dans votre tête. Ce moment, j'imagine qu'il reste figé en vous. Vous y repensez, vous le revoyez. Qu'est-ce que vous avez fait de votre téléphone ?
C'est les gendarmes qui me l'ont pris. Avec le téléphone de mon fils, s'ils ont pris.
Cette image, elle est en vous ?
Ouais, je l'ai tout le temps. Je n'arrive pas à l'effacer de ma tête.
Vous nous avez confié une photo de votre fils, de Mathieu. C'est pour ça qu'on s'est permis de la montrer. Il a l'air tellement...
normal,
ressemblant
sympa.
À n'importe quel adolescent. Voilà.
Comme tous les ados.
Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer?
Moi, je pense qu'il s'est encore brassé avec son papa.
Ils avaient des relations difficiles?
Moi, c'était tendu. Si Mathieu, il fumait, il buvait de l'alcool aussi, en même temps. Il était pas bien dans sa tête.
Il fumait du cannabis?
Du cannabis, oui.
Ouais. Vous en parliez avec lui? Il avait consulté?
Oui, il a vu un... Je suis allée avec lui voir un psychiatre à sa demande. Je suis même accompagnée dans le bureau. Il a parlé de ses soucis avec son papa. Il a parlé comme quoi il fumait du shit, qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc, il a eu un traitement d'un mois à prendre tous les jours. Et avant ça, ben, il a eu aussi un traitement quand il est parti, le PSM, un hôpital psychiatrique.
Qu'est-ce qui...
Et ça, c'est combien de temps avant le drame?
En 2020.
Ah oui.
En 2020. Et je ne voulais pas qu'il sorte.
Qu'est-ce qu'il avait? Vous saviez si c'était du mal-être? C'était quelque chose qu'on trouve chez des adolescents? C'était plus important que ça?
Il avait un gros mal-être, Mathieu. Ouais.
Il ne trouvait pas sa place?
Il y avait ça, il ne trouvait pas sa place. Et puis il a fugué quand il avait 15 ans. Il s'est retrouvé avec son papa. Et ça se passait pas bien parce qu'il était en internat. Et les week-ends, il était tout seul. Il était tout seul sur Annecy. Donc, pour lui, je l'ai abandonné. Mais pourtant, je l'avais pas abandonné puisque j'envoyais des courriers. Les cadeaux, le papa les prenait pas. Donc, il a su, Mathieu, que je l'avais jamais abandonné et tout. Il a retrouvé les cadeaux que j'avais fait pour les Noëls et pour son anniversaire, même pour sa fête. Il avait gardé une seule carte de moi, c'est sa sœur qui lui a donné, de Noël, avec des photos de nous, voilà. Et puis il a bien vu que, parce que moi j'ai rien enlevé de tout, les vêtements, j'ai encore son grand nounours, quand il était tout petit à la maison, c'est Margot qui l'a pris, et puis je l'ai toujours, j'ai toutes les affaires à Mathieu.
Il vivait avec son père, Félicité. Mathieu vivait avec son père.
À Douvres, oui.
Quelle était il vivait à Douvres avec son père.
Voilà.
D'accord. Margot vivait
avec moi.
Avec vous à Annemasse.
Ouais.
C'est ça. Quelle était votre relation avec Mathieu? Quand vous dites, au moment de l'hospitalisation, vous dites, je voulais pas qu'il sorte. Quelle était votre relation avec lui?
Compliqué. Parce que Mathieu m'a menacé avec un couteau. C'est pour ça que j'ai appelé la police et qu'il y a l'ambulance qui est venue le chercher pour l'hospitaliser. J'ai signé un papier pour qu'en interne d'office.
Il y a des antécédents de violence.
Voilà. Mais
il vous a frappé déjà?
Non. Il ne m'a jamais frappé, mais...
Et cette violence, donc envers vous, envers quelqu'un d'autre
Non, après, c'était des mots méchants, comme tous les adolescents, mais...
Et avec son père?
Avec son père, oui, il y a de la violence entre eux, ouais.
Ils se sont déjà heurtés verbalement, frappés, Mathieu vous l'a raconté?
Ouais. Ouais, ça s'est déjà passé.
Des bagarres?
Je sais pas si c'est bagarre parce qu'il me disait pas tout non plus, mais il en avait marre du comportement de son papa. Même ma fille me le disait aussi qu'elle en pouvait plus de toutes ces histoires.
C'était quoi les histoires?
Par rapport au... C'est le petit, il avait une réserve de gâteaux et de jus de fruits qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Et il touchait ça et il se faisait disputer. Moi, une fois, ma fille, elle me l'a dit. Donc, j'en ai parlé au papa quand il m'a ramené ma fille. Et je lui ai dit que ça ne se faisait pas, qu'il fallait acheter plus. Donc, il m'a dit que ce n'était pas mes histoires. J'ai dit, mais c'est mes histoires. Parce que ma fille, elle n'a pas à se faire disputer parce qu'elle prend un gâteau ou un jus de fruits, que ce soit Mathieu ou même Jeanne. La nourriture, c'est pour tout le monde.
Vous nous avez raconté ça avec Philippe, quand on a préparé l'émission, vous nous avez dit, voilà, le petit dont vous parlez, hein, c'est Elliot, qui a 5 ans, hein, qui a été tué par Mathieu. Donc... Il avait, selon vous, un traitement privilégié, lui, par rapport aux autres enfants du couple?
Ouais. Oui, ça, mais après, je sais que Mathieu l'aimait aussi, hein, ce petit. Parce que j'ai vu des photos de Mathieu et Elliot ensemble, même avec Margot et Jeanne.
Maître, ce qu'on entend à travers votre récit, madame, c'est le mal-être d'un adolescent avec des épisodes de violence, c'est pas le seul. Et on sait qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne vont pas bien et qui sont traités. Là, c'est le passage à l'acte, c'est la violence qui va venir. Et c'est l'atrocité de ce qu'il a réussi à commettre. Est-ce que sur ça, vous avez des embryons de réponse? Vous commencez à travailler là-dessus, à essayer de comprendre comment cet adolescent a pu basculer dans une telle violence?
Malheureusement, on n'a pas d'embryon de réponse et j'allais dire, on n'en aura jamais. Parce que la particularité de ce dossier, vous l'avez compris, c'est que Mathieu n'est plus là et le seul qui aurait pu donner des explications lors de l'instruction ou dans un procès pénal aux assises, c'est lui. Vous voyez bien que les seules explications possibles des supputations, c'est madame qui peut vous les indiquer. En fait, ce dossier, c'est quoi? Il y avait des antécédents psychiatriques, psychologiques, mais de là à penser qu'on pouvait arriver à un tel passage à l'acte, c'est inenvisageable. Donc aujourd'hui, on est tous dans la sidération, ma cliente la première. Et malheureusement, cette enquête, du fait que Mathieu n'est plus là, ben, elle va, je ne dis pas qu'elle est vidée de son sens, parce qu'il y a un certain nombre d'informations que ma cliente va devoir comprendre et savoir, notamment le déroulé des faits, on y reviendra un petit peu après, et d'ailleurs ce qui pose des problèmes juridiques, hein, parce qu'elle n'a pas la qualité de partie civile, elle ne l'aura jamais, du fait de l'extinction de l'action publique à venir à l'issue de l'enquête. Mais pour répondre à votre question, on n'en saura jamais plus, personne ne pourra jamais plus en dire que ce que Madame Lambeau vient de vous dire aujourd'hui. Enfin, à mon avis, je parle sous votre contrôle, mais...
Maître, est-ce que vous avez un dossier? Vous avez un dossier? Vous avez quelque
Alors,
chose? Vous avez du papier, un document?
Oui, j'ai un dossier
Qu'est-ce
physique.
Qu'est-ce que vous avez?
J'ai un dossier physique, mais je n'ai rien d'autre. Vous savez bien, Monsieur Rizet, qu'à ce stade-là, à l'enquête préliminaire, l'avocat ne peut rien avoir oui. d'informations supplémentaires. Mais moi, ce qui me pose souci, j'ai aussi accepté de venir sur votre plateau parce que je fais un petit appel au procureur aujourd'hui. Ce qui m'a gêné dans ce dossier, hein, outre les conditions dans lesquelles madame a été traitée par la police et la gendarmerie, mais totalement ubuesque, invraisemblable, elle a été considérée hein, comme complice
de son
plus fils. Que potentiel. Hein, si on vous raconte la nuit qu'elle a passée, 7 heures d'interrogatoire, où elle n'a eu de cesse que demander ce qui s'était passé, elle ne savait pas, elle n'avait pas la confirmation de la mort de sa fille, de son fils, personne n'a voulu lui dire ce qui s'est passé. À la fin de la journée, au bout de 7 heures et 24 heures, quasiment avec un statut de gardée à vue qui ne voulait pas dire son nom, on lui a dit « Au revoir, madame, rentrez chez vous. » Aucune assistance, aucune aide psychologique. Hein. C'est nous qui l'avions mis en place avec madame Rosenblum. Je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de légèreté. Il ne s'agit pas de stigmatiser la police ou la justice, mais de la gendarmerie, mais à ce niveau-là.
Avant de vous laisser poursuivre, pardon, excusez-moi, oui. juste parce que vous nous parlez de ça, je voudrais que vous nous racontiez ça. C'est-à-dire que, véritablement, comme le dit votre avocat, vous vous êtes senti, alors que vous veniez de vivre l'indicible et l'horreur, comme complice ou comme accusé, juste après?
Mais moi, j'ai senti comme ça, en tous les cas. Parce qu'ils m'ont même pris mon ADN. Hein. Alors qu'ils étaient tous morts. On m'a dit que c'était pour question de procédure. Donc j'ai demandé, mais Mathieu, il est mort. Après, j'ai demandé, vous voulez voir si je suis déjà allée dans cette maison? Ils ne m'ont pas répondu. Ils n'ont même pas noté ça sur mon papier d'audition.
Personne n'a pris soin de vous à ce moment-là?
Non. On est rentré avec mon fils.
Vous avez perdu deux enfants. Votre ouais. fils de 22 ans qui est abattu par le GIGN.
Margot.
Votre fille de 15 ans,
ouais.
Margot. Et en fait, on vous considère, le regard de cette société qui fonctionne parfois étrangement, ou même des enquêteurs, un peu comme quelqu'un qui n'a pas à se plaindre. C'est ça, ouais. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Quand vous êtes allé voir des psychologues, quand vous avez essayé d'avoir un psychologue, vous lui avez raconté, quand on a préparé l'émission, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, ben c'était pas possible parce qu'elle partait en vacances. Il fallait que j'attende son retour, sinon il fallait que j'aille en Savoie.
Alors que c'était
possible.
Il fallait
que je répète encore après avec une autre psychologue.
Ouais, donc vous auriez passé tout l'été comme ça, voilà. Sans personne, sans assistance.
Sans personne, ouais.
D'accord.
Donc... Sinon, il fallait que je cherche moi-même un psy. Sachant que on est en été et puis au téléphone, ben on nous prend pas au téléphone. Avec Dr Lib, ben les rendez-vous sont en octobre-novembre, donc
c'est fou. Et merci à Johanna Rosenblum qui doit nous écouter
oui.
du travail qu'elle fait avec vous,
oui.
parce
oui.
qu'elle vous a sans doute aussi sauvé la vie.
Oui.
Je crois qu'à un moment, ça allait très mal dans votre tête, dans votre cœur, c'est
oui.
ça.
Oui, elle m'a beaucoup aidée. Je ne remercierai jamais assez.
Il y a cet accompagnement qui n'a pas eu lieu, et maître, il y a ce que vous disiez à l'instant, le fait que pour obtenir des réponses, ce sera très difficile, qu'il faudra que le procureur fasse preuve de bienveillance, d'humanité pour vous apporter des réponses.
Exactement, parce qu'on est dans le cas d'un vide juridique, ma cliente n'aura jamais la qualité de partie civile, donc son avocat ne pourra jamais avoir accès au dossier. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse, d'ailleurs le législateur doit réfléchir à cette situation. parce que pour dans des situations pareilles, des crimes de sang où elle est la dernière victime vivante, il y a l'autre famille, mais il y a un devoir de mémoire. Parce qu'une enquête préliminaire, c'est quoi ? Une enquête, c'est quoi ? C'est retrouver le coupable, l'identifier, le traduire devant un tribunal, mais c'est le devoir de vérité qu'on doit à la partie civile. Donc le procureur aujourd'hui, à mon sens, a un devoir de vérité à l'égard de ma cliente. Il doit apaiser son deuil, l'aider à sa reconstruction, au moins ce qu'elle sache qui s'est passé, le résultat des autopsies, le déroulement précis des faits. Je veux dire, ça, c'est ce devoir de vérité-là, à mon sens, le procureur le doit. Et je fais un appel à monsieur le procureur, ne faites pas de conférence de presse finale pour dévoiler à la France entière ce qui s'est passé dans cette enquête. Recevez ma cliente dans un bureau, comme légitimement il faut le faire, et expliquez-lui ce qui s'est passé. Vous l'aiderez grandement à se reconstruire, à faire son deuil.
Je prends un tout petit peu de recul par rapport à cette affaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a des cas comme ça en France, on se dit, c'est une affaire de famille, il y a une enquête, et finalement, ça ne regarde personne, et on ne dit rien à personne, et c'est réglé.
Exactement, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est pas admissible. Elle a eu un seul contact de 3 minutes avec le substitut du procureur, qui un jour lui a appelé. Elle a posé des questions pour savoir juste où on était de l'enquête. Aucune réponse, on lui a juste dit... Vous avez 15 jours pour la maison, on a levé les scellés, vous avez 15 jours pour aller, dans 15 jours, vous pourrez aller récupérer les affaires. C'est un petit peu léger, je veux dire, la loi est la loi, mais il y a un vide juridique, il faut faire preuve d'humanité. Et moi, j'attends du parquet des explications, non pas à moi, mais à elle, à l'issue de l'enquête préliminaire, quand elle sera bouclée.
Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui savoir ? Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? De quoi avez-vous besoin ?
Moi, j'aimerais bien savoir si... À partir du moment où j'ai contacté la gendarmerie, est-ce qu'il y avait eu la possibilité d'avoir des personnes encore vivantes ? Parce que là, ils ont dit qu'ils sont morts, enfin, pour mes deux enfants qui sont morts le 20. Ma fille à 11h55 et Mathieu à midi, mais c'est pas possible.
Ça veut dire que vous vous dites que peut-être, et on est là dans une hypothèse, on aurait pu sauver des vies ?
Oui, c'est ça que je veux savoir aussi.
Comment...
Ben, je sais que ça ne va pas me les faire revenir, mais...
Bien sûr.
Comment se sont passées les obsèques de Margot ?
À l'église. Oui, ben, à l'église.
À Annemasse, il y avait du monde.
Oui. Il y avait
ses amis.
Quelques amis, parce qu'il y en a qui sont en vacances, et puis il y en a qui ne sont même pas au courant que ma fille...
Parlez-nous un peu d'elle, qui elle était, Margot.
Ouais. Margot, c'était une très belle fille. Intelligente, super gentille avec tout le monde. Elle a passé son brevet avec mention très bien. Tous les trimestres, félicitations. Elle faisait partie d'un club de manga. Elle a fait du théâtre, elle a fait du chant. Elle aidait tout le monde. Elle s'occupait bien de ses frères et sœurs. Elle aidait même les gens dans la rue avec leurs courses, le froid. Elle dessinait beaucoup.
Et pour Mathieu, des obsèques ont eu lieu parce qu'on n'a pas...
Non, j'ai pas voulu que les gens sachent où il allait être enterré pour pas qu'on vienne... salir sa tombe.
Pour le protéger, encore une fois.
Voilà.
Comme la mère que vous êtes, comment vous voyez la suite ? Comment vous... Est-ce que vous arrivez d'ailleurs à voir une suite ?
Ben là, je suis obligée pour les petits. Donc là, je tarde pour faire les affaires scolaires pour les petits. Parce que dans tous les magasins où je suis allée avec Margot, elle a son souvenir, hein, elle passait de partout. Il y a encore des gens qui me demandent comment va ma fille ? Alors qu'elle n'est plus là, donc c'est un peu compliqué, mais je suis obligée de faire.
On vous remercie beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. On salue votre courage d'être venu parler. On a compris aussi que vous attendiez des réponses. On a compris mettre cet appel au procureur qui a été lancé. Merci d'être venu sur le plateau.
Merci.
D'affaires suivantes. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'affaires suivantes à 13h sur BFM TV. Tout de suite, le prochain journal sur BFM TV et la série sur Jonathan Daval.